VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, Muhammadu Buhari a accédé ce matin à la présidence lors d'une cérémonie à Abuja à laquelle ont assisté des dizaines de chefs d'État et de gouvernement et autres dignitaires étrangers. Le président Buhari a assumé le pouvoir dans un pays ébranlé par la crise économique, la corruption et les attaques du groupe islamiste Boko Haram. Claire Morin-Gibourg.
Le secrétaire américain John Kerry mène la délégation américaine avec notamment une figure symbolique, le Nigérian Hakeem Olajuwon, star de la NBA. Le parti de Muhammadu Buhari, l'APC, dit qu'il hérite d'un pays sinistré, doté d'une économie pratiquement à terre à cause de la chute des cours du pétrole. La question sécuritaire sera un des dossiers brûlants qui attendent le nouveau président avec l'insurrection du groupe Boko Haram qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Pour plus de détails sur les défis qui attendent le nouveau président nigérian, Idriss Fall a joint le docteur Cletus Imon, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria.
Mohamed Buhari n'est pas nouveau en ce qui concerne l'administration du Nigeria. Il était une fois un chef d'État de notre pays, bien expérimenté. J'espère que lui aussi connaît bien les problèmes qu'il attend. On pense que Buhari est capable de bien faire et de bien réussir son travail de président du Nigeria.
Un des premiers plus grands défis, ce sera la sécurité, parce que Boko Haram est là.
Boko Haram est là, oui, bien sûr. Mais nous avons également une armée qui est bien expérimentée et qui a joué un bon rôle au niveau international. Notre avis, on n'a pas bien utilisé notre armée. Lorsque le gouvernement a été sérieux vers la fin de son régime, lorsque les élections s'approchaient, on a effectivement attaqué le problème de Boko Haram. Et maintenant, on a capturé la majorité de leur base. Le problème est toujours là, mais pas aussi menaçant qu'avant.
L'autre problème, c'est la corruption. Le Nigeria est connu pour la corruption presque endémique.
Oui. Cela a vraiment contribué à l'incapacité du gouvernement qui va partir. Le gouvernement a été vraiment corrompu. La corruption même est arrivée au niveau de l'armée. Donc voilà pourquoi c'était difficile pour le gouvernement de vraiment trouver solution à ce problème de Boko Haram. On espère qu'avec Buhari, ce sera différent. Parce que lui, il n'aime pas la corruption. Il a déjà manifesté cela lorsqu'il était le chef d'État de notre pays. Il a vraiment combattu contre la corruption et l'indiscipline. Et vous vous rappelez War Against Indiscipline qu'il a introduit pour lutter contre ce dégât d'indiscipline-là. Nous espérons qu'il va vraiment s'attaquer à la corruption. Il a fait une grande promesse. Je pense qu'il va trouver une solution à ce problème.
Et aussi à la question du chômage, c'est le pays le plus peuplé du continent, première puissance économique, et l'ensemble, une bonne partie des jeunes n'arrivent pas à trouver du travail.
C'est une économie sur le papier. Le Nigeria a la plus grande économie en Afrique maintenant. Mais comment est-ce qu'on voit les effets de cette économie? Il n'y a pas de grands effets. Il y a le chômage, il y a beaucoup de gradués qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a l'argent quand même, il y a l'argent. Il y a les individus qui sont même plus riches que le pays. Ils ne font rien pour améliorer la situation des paysans. La masse populaire souffre.
Le docteur Cletus Iom, professeur à l'université de Makurdi au Nigeria. Au Mali, le chef des casques bleus de l'ONU, sain et sauf, après l'attaque contre son convoi jeudi. Des précisions avec Morgane Guiriek.
L'explosion d'une mine au passage d'un convoi de la MINUSMA sur l'axe Taherje-Tombouctou illustre l'insécurité persistante dans le nord malien. Le général danois Michael Lollesgrad, commandant de la force militaire, et le chef djiboutien de la police, Awale Abdou Nassir, ont tous les deux échappé à la mort. Trois casques bleus burkinabés ont par ailleurs été blessés. Lundi soir, un casque bleu bangladais a été tué et un autre grièvement blessé près de l'aéroport de Bamako. Les causes de ce décès n'ont pas été élucidées. Depuis le déploiement de la MINUSMA en juillet 2013, 35 casques bleus ont été tués. Pourtant, le général Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre française, a assuré hier que Al-Qaïda au Maghreb islamique était durablement affaibli et avait perdu sa liberté de circulation.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Retour au Mali pour un coup de projecteur sur la première session de la cour d'assises de Bamako. Les audiences qui vont durer un mois seront dominées par les questions d'insécurité, de corruption et de manque de moyens pour la justice. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette première session de la cour d'assises de Bamako doit trancher 200 affaires, 70 assassinats et 20 infractions contre les biens publics. Amadou Sango, avocat général près la cour d'appel de Bamako.
Nous avons voulu prendre en compte le dossier de toutes les personnes qui sont en détention provisoire depuis plus de 2 années. Par ce fait, si nous arrivons à faire juger toutes les affaires que nous avons enrôlées, il n'y aura plus de détenus ayant dépassé 2 années de détention provisoire. C'est ça la spécificité de cette session. La cour d'assises est une juridiction de jugement. C'est un collège de 7 juges, 3 magistrats professionnels et 4 non-professionnels qu'on appelle assesseurs qui vont prendre toutes les décisions. Les décisions seront prises à la majorité par vote à main levée.
Il y a 130 accusés, dont 20 femmes dans divers dossiers. Les faits reprochés ont pour nom viol, meurtre, empoisonnement, brigandage et pédophilie. Mamadou Berthe, premier président de la cour d'appel de Bamako.
La justice concerne tout le monde et chacun doit s'impliquer pour sa mise en œuvre en évitant de commettre l'erreur qui consiste à penser que le crime n'arrive qu'aux autres. Il arrive à tout le monde et peut frapper à toutes les portes, à soi-même, à un parent, à un ami. Ça sème le trouble social.
Cette session se tient à un moment où les auxiliaires de la justice, la police et la gendarmerie sont confrontés à d'énormes difficultés. C'est ce qu'a fait savoir le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Amoguin Tosogui.
Et je pense qu'il est inconcevable qu'en ce 21e siècle, la police continue à utiliser, quand je parle de police, je parle de la police judiciaire, police et gendarmerie, continuent à utiliser les moyens artisanaux d'investigation, se fiant à la bonne étoile de l'enquêteur ou alors à la fragilité d'un suspect. La science doit être au chevet de la justice.
La lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite auront une place importante pendant cette session de la cour d'appel de Bamako.
Depuis près de 2 décennies, la traque de la délinquance à col blanc est devenue un programme politique. Combien sont-ils à laisser la justice avoir les bras libres quand ils ont un frère, une sœur, un proche qui se trouve impliqué dans une procédure? Oui, on veut que la justice, la loi s'applique, mais contre les autres, pas contre soi.
Les représentants des avocats du Mali dira que force doit rester à la loi.
Quelle que soit la situation, la loi doit avoir droit de cité.
À l'issue de cette assise, la cour va prononcer des peines de réclusion, des peines d'amende et peut-être des acquittements. Mais ces décisions n'interviendront qu'après le jugement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, le président Joseph Kabila en RDC commence aujourd'hui des consultations politiques tous azimuts pour un dialogue aux contours encore flou. Une partie de l'opposition refuse d'y participer en qualifiant l'initiative de manœuvre du chef de l'État à qui la Constitution interdit de se représenter pour retarder l'échéance de la présidentielle de novembre 2016. Anne Albertson.
Monsieur Kabila doit recevoir d'abord les chefs des confessions religieuses, puis les chefs coutumiers, avant de discuter avec ceux des partis politiques de l'opposition, puis de la majorité, des groupes parlementaires et regroupements politiques, pour finir avec les diplomates accrédités en RDC et le chef de la mission de l'ONU au Congo, a-t-on précisé de même source. La Commission électorale nationale indépendante a publié en février un calendrier électoral global prévoyant une série d'élections locales, provinciales, sénatoriales, devant commencer en octobre et mener jusqu'à la présidentielle et aux législatives programmées pour novembre 2016. Les 3 grands partis de l'opposition estiment en substance que ce calendrier fait peser une grande incertitude sur la tenue de la prochaine présidentielle dans les délais prévus par la Constitution. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001.
Et pour terminer, le 65e congrès annuel de la FIFA est en cours à Zurich, en Suisse. L'ONU, pour sa part, revoit ses partenariats avec la FIFA en raison de l'affaire des pots de vin révélée par la justice américaine. Eddie Sango.
Pour Stéphane Dujarric, porte-parole à New York, l'ONU a décidé de regarder de plus près ses partenariats avec la FIFA. La décision intervient après l'arrestation à Zurich des 7 responsables du football mondial dans des affaires de pots de vin. M. Dujarric a cependant affirmé qu'aucune décision n'a été prise quant à un éventuel arrêt de ses partenariats. Les Nations Unies, selon le porte-parole, sont très engagées dans l'utilisation du sport pour diffuser un message de développement et de tolérance lors des grands événements sportifs. Pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance avaient organisé des espaces pour les enfants dans 3 villes sud-africaines qui accueillaient des matchs de football.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et bien sûr également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.